Café Noir, bonsoir. 30 ans, ça se fête. 30 ans de syllabes et une participation de Café Noir depuis quelques mois avec déjà des archives. Des archives à dépoussiérer pour l'occasion. Pour cet anniversaire, on redécouvre déjà l'interview de Hasard Hasard. Café Noir présente Hasard Hasard, un duo de techno expérimental rencontré le vendredi 14 novembre 2025 au Coquelicot de Fougères. Bonne écoute. Café Noir, bonsoir.
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 Donc Hasard Hasard, A-Z-A-R-A-Z-A-R, des paysages sonores. C'est vrai qu'on se promène, il y a des sonorités.
Bah écoute, c'est un peu le principe du duo depuis qu'on s'est rencontrés. On fait de la musique ensemble depuis un bon moment avec Vincent. On avait d'autres projets avant un peu plus rock, un peu psyché. Et quand moi j'ai fini un peu mes études qu'on a voulu lancer ce projet, qui était de base porté sur les musiques électroniques et improvisées. Et qui s'est gentiment dirigé vers un truc vraiment où on veut faire de la techno, mais tout en gardant l'univers avec une batterie, les synthés et toujours en improvisation, quoi.
Alors on dit psyché, on dit rock, psyché rock, on pense à Pierre Henry. On peut même penser en classique à Strauss avec Ainsi parlait Zarathoustra, l'ouverture. Ou je sais pas, est-ce que vous êtes allé chercher du côté des pères fondateurs de l'électronique comme Kraftwerk par exemple ?
Par exemple, c'est là où on s'est un peu rencontré avec Vincent, c'était au conservatoire de Pontivy. On s'est rencontré début du lycée, je pense, quelque chose comme 2021 ou 2020. Et justement, moi, c'est là où j'ai découvert un peu les musiques électroniques avec notre prof du conservatoire à l'époque. Et on jouait du Kraftwerk, on était passé par Sun Lux aussi, The Comet Is Coming, qui étaient des groupes qui... Ils avaient quand même une composition où il y avait batterie, guitare, un peu de synthé, de la voix. Surtout que pour Sun Lux, c'était quand même quelque chose de beaucoup plus actuel. Mais il y avait toujours cette patte électronique qui renvoyait à des trucs plus anciens comme par exemple Kraftwerk, qui sont du coup les trucs fondateurs de ce style. Et même nous, pour Hasard Hasard, quand on a un peu commencé à vouloir vraiment se diriger vers la techno, on a un peu fait l'espèce de chemin retour. On est allé un peu réécouter les vieux trucs, tout ce qui se passait à Détroit avant, tout ce qui est Jeff Mills, tout ça. Et ça nous a un peu du coup permis de nous situer, parce qu'il y a eu une bonne période où on était en mode, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait de la techno ? Qu'est-ce qu'on fait comme techno ? Et ça nous a un peu permis de voir quel paysage nous plaisait un peu moins. Et donc c'est là où il y a eu un peu cette espèce de retour en arrière, de retour aux sources, un peu dans ce qu'était la techno à ses débuts, quoi.
Alors, quel techno, et c'est vrai qu'on entend cette techno, cette électro jungle avec une batterie primitive, étonnant quand même comme son.
Ouais, le but c'était du coup avec toutes ces influences de mêler des sonorités plus acoustiques à la base de la batterie, avant de choisir de l'augmenter un petit peu, donc de la rendre plus électronique, mais en gardant cette énergie du live quoi, qui est paradoxalement moins séquencée. Dans la musique électronique, mais qui marche très très bien et qu'on essaye de mêler justement à des séquences, des boîtes à rythme, et ça permet de booster cette énergie justement en live, en tout cas je pense que c'est un vrai point fort et un plus.
Et vous arrivez même à des grésillements un peu comme des didgeridoo.
Le noise un peu, ouais, c'est vrai qu'il y a, on a récemment intégré le synthé modulaire dans notre live. Ce qui nous a fait prendre vraiment un bon niveau parce que il manquait un peu avant ce côté très séquencé de la techno. Qu'en batterie, on peut essayer de reproduire, mais qui sera jamais la machine, quoi. Ça sera jamais le cas. Et le fait d'avoir mis le modulaire dedans, ce qui est quand même l'un des instruments principaux de ce qu'est la techno en vrai aujourd'hui, ça nous a vraiment permis de retrouver l'esthétique qu'on voulait atteindre. Même si on est encore en train d'essayer de l'atteindre, on a senti qu'on touchait du doigt quelque chose qui nous plaisait vraiment, et ce côté très séquencé avec des bruits des fois très très étranges qui peuvent du coup faire penser à des didgeridoo, des trucs très très noise et tout ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé il y a pas si longtemps. Finalement on l'a trouvé cet été en résidence, donc c'est quelque chose qui nous fait bien plaisir aujourd'hui, ouais.
Et dans votre musique expérimentale, quel type de public ou de contemplation vous attendez?
Avec Vincent, on se disait que depuis qu'on s'est dirigé vraiment dans le but d'essayer de faire de la techno, on vise vraiment presque l'expérience de club. Et quand on dit club, c'est pas d'hurler, de danser forcément avec les gens, des lumières partout. On vise vraiment ce truc un peu limite introspectif. Parce que ce qu'on aime, nous, c'est la techno très hypnotique, des textures assez spécifiques qui amènent, en vrai, je trouve, un peu à la transe et à l'introspection. Et donc, c'est un peu l'expérience qu'on aimerait avoir au fur et à mesure des lives. On est déjà en train de travailler avec des gens qui font du VJing, donc qui peuvent projeter des choses pour avoir des textures qui sont différentes que celles juste de light qu'on peut avoir dans des salles. Mais voilà, c'est un peu... Le public visé, c'est celui qui vient écouter la musique, pas forcément la regarder, en fait. Parce que ça peut être un atout pour nous d'avoir la batterie et le fait que Vincent aussi joue, tout est improvisé, donc tout est joué en live. Et la batterie, c'est quand même quelque chose de très visuel, donc ce qui fait une espèce de petit divertissement en plus de la musique. Mais ce qu'on vise, c'est vraiment la trance qui, du coup, est forcément amenée par un truc très introspectif de se perdre un peu dans sa tête avec la musique et tout ça, quoi.
Bon, bah, en avant la surprise. Merci, Hazard.
Merci beaucoup.
Merci.
Toujours dans Café Noir pour cet anniversaire de Syllab, l'interview de Chico des Gypsy Kings dans Café Noir. Café Noir présente Chico des Gypsy Kings, un musicien rencontré le samedi 18 octobre 2025 à l'église Saint-Léonard de Fougères. Bonne écoute. Café Noir, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, Joby Joba, effectivement, on connaît tous les mots. Derrière les paroles, elles disent quoi?
Elles disent la fête, elles disent profiter de la vie, elles disent une belle histoire d'amour. Et les paroles, c'est Joby Joba, c'est chaque je vis et je vais, et chaque jour, je t'aime plus. Belle déclaration d'amour.
L'amour qui transporte le mouvement.
Toujours. Notre carburant à nous, c'est l'amour.
Et d'ailleurs, vous retrouvez aujourd'hui en tournée église et cathédrale à chercher une nouvelle liberté musicale.
Une liberté, mais surtout des lieux extraordinaires qui nous permettent encore de nous retrouver avec notre public ou un public qui vient nous découvrir dans des lieux qui sont incroyables, qui sont des lieux sacrés, des lieux en plein de spiritualité. Et là, on peut chanter nos chansons et nous avons adapté dans notre spectacle des chants sacrés. D'abord parce que nous aimons ça et en plus un respect pour le lieu.
Il y a une volonté spirituelle que chacun se retrouve un peu peut-être avec la musique?
Ben complètement, c'est une invitation à se retrouver avec ses sentiments, son émotion, son ressenti, c'est vraiment ça. Et puis peut-être que quelque part on s'accroche à une branche qui s'appelle la foi.
Alors, gypsy, on connaît le mot, il y avait Jimi Hendrix qui disait gypsy eyes, les yeux gypsy, c'est quoi gypsy exactement?
Gypsy, c'est gitan en anglais, nous c'est gypsy parce que, en fait, mes anciens compagnons, les Gypsy Kings avec qui j'ai fondé le groupe, s'appelaient Reyes, donc qui veut dire les rois, donc c'était dans les années 80, j'ai changé le nom, j'ai mis Gypsy King parce que j'avais réalisé très tôt que notre musique était internationale et qu'il nous fallait un passeport international, d'où Gypsy King.
Alors vous êtes devenu en 2000, je crois, ambassadeur de la paix auprès de l'UNESCO.
En 96, pendant 25 ans, envoyé spécial de l'UNESCO pour la paix.
Et alors, en quoi consistait cette mission?
Promouvoir la paix, la tolérance, la bienveillance, un petit peu partout. Je me suis retrouvé avec le Dalai Lama, avec l'abbé Pierre, avec des personnalités incroyables que même pas en rêve j'aurais pu imaginer vivre ces moments. Et puis, dans ces moments où nous sommes aujourd'hui encore très compliqués, c'est important de... Je démarre toujours notre concert avec on dédie ces concerts pour la paix, la tolérance et la bienveillance.
Rencontrer le Dalai Lama, ça doit être quelque chose quand même. On se retrouve face à une grande humanité.
Complètement, mais en même temps, c'est un exemple incroyable qu'il faut suivre. Parce que la vie, c'est ça, c'est la vie, ben c'est la vie. C'est les bons sentiments qui nous entourent, c'est les belles paroles qu'on devrait avoir tous les jours, qu'on devrait entendre tous les jours. Au lieu de ça, on se retrouve avec justement des sons qui sont compliqués, mais on essaye de les adoucir avec la musique.
Voilà, je vis Joby Joba. Et d'ailleurs, en termes d'émotion, vous racontez que vous avez réussi à faire pleurer Charlie Chaplin. Alors là, ça paraît vraiment incroyable quand même, arriver à provoquer l'émotion chez l'une des personnes qui a provoqué le plus d'émotion.
Ben, qui a fait rire la planète entière avec sa manière d'être tragico-comique. Et c'est vrai que dans les années 70, début 70, je me suis retrouvé, c'était l'époque où on jouait dans les restaurants, on faisait la manche, et puis je me suis retrouvé dans un restaurant en Suisse qui s'appelait La Grappe d'Or à Lausanne. Et là, le patron qui adorait notre musique, on avait joué le midi, me dit « Si vous revenez ce soir, il y a M. Chaplin qui sera là. » Et j'ai trouvé ça tellement incroyable. Incroyable. Je me suis retrouvé avec mon ami à jouer devant cette personne qui a fait rire le monde entier. Quand on a chanté, il s'est mis à pleurer. Il était déjà âgé, il y avait sa famille qui le soutenait à côté. Mais pour moi, c'était vraiment un signe que si on arrivait à sensibiliser des personnes comme ça, notre musique allait avoir de l'avenir.
Alors, elle a de l'avenir, elle continue. Vous êtes dans la transmission aujourd'hui avec votre fils, je crois, Mario.
Oui, complètement. On est dans la transmission. C'est pas qu'on passe le flambeau, c'est qu'on le partage ensemble. Et je suis très heureux de l'avoir avec moi à mes côtés sur scène. C'est un garçon qui est très prometteur, qui a une voix extraordinaire, qui est d'une gentillesse incroyable. Et je suis ravi de le faire découvrir. Il l'aurait fait peut-être sans moi, mais là, aujourd'hui, je suis heureux et fier de le présenter.
Et alors, c'est quoi les vrais conseils de papa que l'on donne dans ces cas-là?
ben c'est profite de la vie, profite du moment que tu vis. On a la chance et un privilège de faire de la musique, et je crois que c'est le plus beau des dialogues qu'on puisse avoir avec avec le monde entier. On est, nous, avec la musique, on est une passerelle. Et c'est magnifique. Et cette passerelle entre moi, mon fils et le public, vous imaginez, c'est que du bonheur.
Bon, bah, carpe diem. Merci beaucoup, Chico.
Merci à vous.
Bon anniversaire Syllab pour les 30 ans, Café Noir des Poussières, les archives, et maintenant c'est Briègue Guerveneau. Café Noir présente Briègue Guerveneau, un musicien breton rencontré le samedi 18 octobre 2025 à la médiathèque de Fougères. Bonne écoute. Café Noir, bonsoir.
Salut.
Monor Esmat.
Monor Amat.
Et donc voilà, Briègue Guerveneau, chanteur, musicien breton, avec une voix assez haute qui fait penser à de la pop symphonique, presque comme Coldplay.
Ah ouais, carrément, Coldplay, ok, pourquoi pas. Ouais,
il y a un peu ce voyage comme ça dans les étoiles.
Je connais pas trop Coldplay, j'ai pas trop le genre de truc que j'écoute, mais pourquoi pas, c'est peut-être, je sais pas.
Vous avez un chant breton dans lequel vous partez quand même dans des aigus, dans des, pas des grandes vocalises, mais des envolées.
Ouais, c'est un peu, peut-être un peu lyrique par moment, mais c'est plutôt pop, ouais, je dirais pop.
Alors comment s'est constituée votre histoire musicale ? Vous êtes parti d'une formation classique, vous êtes aujourd'hui vous pouvez être tout seul par exemple avec vos instruments ?
Alors en fait, je suis autodidacte au niveau de la musique, j'ai appris la musique principalement tout seul. Voilà, c'est un projet que je mène depuis 20 ans. J'ai fait 5 albums. Et à chaque album, je le défends avec des équipes différentes, que ce soit en groupe. Et sur celui-là, je le défends en groupe et en solo. Voilà. Donc seul en scène, avec mes guitares, ou avec le band quand c'est possible.
Dans votre musique, vous semblez poser non seulement une musique, mais un univers. Vous proposez, on rentre dans une ambiance quand on vous écoute.
Ouais, probablement. C'est un univers assez poétique, assez sombre, assez romantique, dans l'ensemble. Ouais.
Dans lequel, majoritairement, on ne comprend pas les textes.
Non, puisque c'est en breton et que c'est pas une langue beaucoup parlée. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'ils disent ces textes en breton pour ce breton énigmatique ?
Écoutez, ça, c'est, comme je disais, ça parle, c'est très poétique. Le dernier album, il parle beaucoup d'amour, beaucoup de chansons d'amour. Après, c'est des choses que j'écris qui sont assez personnelles par moment. Et dans le livret, je traduis les morceaux en anglais. Donc, effectivement, la compréhension de prime abord, vu que c'est en breton, les gens comprennent pas. Mais je veux dire, s'ils veulent comprendre, ils peuvent traduire les textes. Les textes sont traduits. Et voilà. Et moi, j'ai jamais. Enfin, il y a plein de groupes que j'écoute où je comprends pas les paroles. Donc, pour moi, c'est pas un frein, quoi.
Dans les univers que vous aimez, qui vous ont inspiré, c'est Nick Drake avec ses nappes comme ça, un petit peu sombres.
Non. Alors, mais je pense que dans les inspirations, il y a pas mal de choses. Je dirais pas Nick Drake parce que j'ai pas l'impression que ce soit très Nick Drake ce que je fais. Je dirais plutôt les Cure. Je dirais plutôt L'Aurore. Un artiste qui est mort là il y a 2 ans, plutôt un folk islandais. Il y a plutôt des gens comme Emma Ruth Rundle, Ben Howard, voilà, plutôt de la indie folk. Et puis Emma Ruth Rundle, ouais, c'est une assez grosse influence ces derniers temps, notamment sur l'écriture du disque. Et là en solo, il y a beaucoup de choses. C'est une artiste américaine qui vient du métal en plus, comme moi. Donc je pense qu'il y a cet univers un peu sombre, tout en étant folk. Elle joue seule sur scène aussi, en guitare électrique. Donc ouais, je dirais plus ça que Nick Drake, même si j'aime beaucoup Nick Drake, mais c'est pas une influence directe dans ma musique, quoi.
Vous parlez d'Islande, est-ce qu'on va jusqu'à Sigur Rós par exemple ?
Ouais, Sigur Rós, ouais. Sigur Rós, c'est une référence, clairement. Moi, il y a des albums de Sigur Rós que je trouve magnifiques. Valtari, par exemple, c'est un super album. J'ai réécouté récemment. Une super dynamique sur ce disque-là. Moi, voilà, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Ouais, carrément.
Alors, on parle de Magma, de Sigur Rós. Pour ces artistes-là, la musique, c'est un langage. On redéfinit un peu, on bouscule les codes du langage.
Oui. Alors après, moi, comment dire ? Moi, à chaque fois, j'ai fait des disques différents. Et c'est vrai que je viens plutôt du métal, des musiques progressives, plus que de la chanson, même si maintenant, j'affirme le fait de faire de la chanson. À la base, j'étais plutôt issu des musiques progressives aussi, où justement les chansons et la musique servent une histoire et souvent c'est des morceaux très longs, très interprétés avec beaucoup d'arrangements. Donc ouais, je dirais qu'il y a cette part de moi qui est de mes influences qui se traduisent par ça, quoi, par des musiques un peu atmosphériques, progressives. Ouais.
Et dans l'écriture, est-ce que vous partez vers, je sais pas. Pas des opéras rock, mais peut-être des narrations, comme un peu de la musique filmée.
Ouais, il y a peut-être un côté un peu musique de film dans ce que je fais. Mais comme je disais, moi j'écoute beaucoup des trucs comme Vangelis, des trucs comme ça. Donc ça, c'est évident que ça s'entend aussi dans les arrangements, dans tout ça. Musique de film un peu, ouais. J'aimerais bien faire de la musique à l'image un jour, ouais. Ça me plairait bien.
Bon, on vous le souhaite. Merci beaucoup.
Merci, merci à vous.
Tausend Ohren.
toujours dans cet anniversaire de Syllab, des archives dépoussiérées de Café Noir avec Pascal Horry, académicien. Café Noir présente Pascal Horry, un académicien originaire de Fougères, rencontré le 18 octobre 2025 à la coursive de Fougères. Bonne écoute. Café Noir, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, Pascal Horry, la liberté d'expression, c'est un grand sujet. Et on peut se demander ce qu'est Charlie, ce que dit Charlie.
Oui, c'est une question, vous le savez, si vous me posez la dite question, que je me suis posée au moment du massacre de Charlie Hebdo. J'y étais sensible pour des raisons personnelles. J'étais un ami personnel aussi de Cabu. Par ailleurs, historien des formes dites populaires ou de masse, en tous les cas faiblement légitimées de culture, j'étais très sensible à la bande dessinée, au dessin de presse, à la caricature. Ça, c'était une situation en quelque sorte scientifique. À l'université, j'étais connu comme un directeur de recherche qui pouvait accepter des sujets sur ces objets-là, faiblement légitimés à l'époque, qui sont presque à la mode maintenant, hein, parce que je vous parle d'une période lointaine. Et je ne m'attendais évidemment pas à ce que la mort survienne, et plus que la mort d'une certaine façon. Il faut dire que je n'ai pas été le seul, parce que j'étais présent, c'était un hasard, du côté de la place de la République le soir du massacre, puisque le massacre a eu lieu en fin de matinée, pour simplifier. Et il y avait déjà beaucoup de monde qui brandissait des crayons. Ensuite, le mot d'ordre « Je suis Charlie » a surgi, ce qui était une solution. C'est-à-dire qu'on disait « Je » parce que, partant du principe que nous sommes actuellement dans la période, à l'échelle du monde, hein, pas seulement de la France, la plus individualiste qui ait jamais existé. Ça va peut-être d'ailleurs encore se poursuivre et s'amplifier. Donc dire « Je », c'est assez important. Alors que moi, évidemment, je viens d'une génération qui croyait encore beaucoup plus au collectif.
Je suis Charlie, donc nous sommes.
Donc nous sommes, et ce qui était assez beau, c'est que c'était décliné. Alors je parle au passé, mais à mon avis, c'est quand même un type de réponse qu'on pourrait imaginer demain, si une catastrophe analogue nous tombait dessus. Je suis, mais je suis arabe, je suis juif, je suis flic, etc. C'est-à-dire, je est un autre, et je considère, si je brandis ça, si je brandis un crayon, que nous avons le droit de vivre en bonne intelligence, hein, comme on dit du côté de la ville de Rennes. Et alors la liberté d'expression, ça a été évidemment capital dans cette affaire, parce que je faisais partie de ces chercheurs qui avaient commencé à travailler un peu sur Charlie Hebdo. On a été quelques-uns à sortir, je dirais, 3 semaines après le massacre, un ouvrage collectif, où on déclinait un petit peu tous les aspects de ça. Et puis, quelques temps après, j'ai moi-même écrit un livre qui partait de la question de la caricature, par exemple, pour arriver à la laïcité et à la liberté d'expression. Il faut savoir que la liberté d'expression, bon, la France a été relativement, mais pas absolument pionnière, hein. C'est l'Angleterre, hein, qui a été pionnière en ce qui concerne la liberté d'expression. Ça, les Français ont toujours du mal à admettre que les Anglais les précédaient. Dans une perspective dite libérale, la presse au sens moderne, elle naît en Angleterre. Le modèle anglais s'implante assez vite en France, mais quand même, la France n'a pas tout inventé. La Révolution française n'arrive que 4e après 3 révolutions, la néerlandaise, l'anglaise, l'américaine. Il faut quand même se rappeler toujours ça. Et mais la liberté d'expression, incontestablement, c'est un lieu de rencontre entre plusieurs familles politiques. Dès que vous êtes, grosso modo, dans la minorité, vous réclamez la liberté d'expression. Le test, c'est que quand vous arrivez au pouvoir, est-ce que vous continuez à la respecter.
Et l'histoire est parsemée de périodes comme ça, censure, liberté. On est dans laquelle?
Alors, elle est parcourue dans un pays comme la France. Attention, l'Angleterre a réussi à échapper à ces alternances parce que nous sommes un vieux pays monarchique. Je suis désolé de le rappeler. Il faut croire que nous aimons ça. Je suis désolé de le rappeler. Nous avons une tradition monarchique. Et effectivement, l'expérience de la Révolution a montré qu'on pouvait en extraire des formes de liberté. Et la période de l'histoire de France où a été non seulement proclamée, mais admise la plus grande liberté d'expression, ça a d'abord été le début de la Révolution, mais ça a duré 2 ans. Ensuite, tout s'est crispé. Et par exemple, les montagnards ont été des censeurs extraordinaires aussi, hein. Et sans parler des guillotineurs qu'ils pouvaient être contre leurs adversaires. La deuxième époque, c'est la Troisième République, avec la loi sur la presse. Là, on est dans les années 1880. C'est une loi qui fait que la presse de cette époque était plus libre qu'elle ne l'est aujourd'hui, hein, faut le savoir. Le sommet de la liberté d'expression, c'est dans ces années-là, quand les républicains arrivent au pouvoir, et miracle, au lieu de tout monopoliser pour eux, ils acceptent une large liberté d'expression. Aujourd'hui, entre la diffamation, les lois mémorielles, etc., je vous le signale, il est évident qu'on est loin des États-Unis qui, jusqu'à Trump, évidemment, jusqu'à Trump, était le pays du premier amendement. Dans cette logique-là, un nazi ne peut pas être bâillonné tant qu'il n'appelle pas, par exemple, à la subversion du régime. En France, il est évident que, comme dans la plupart des pays, d'ailleurs, du monde, ce qu'on appelle liberté d'expression, c'est une liberté qui est encadrée, en particulier par la législation sur la diffamation. Même en France, sous la Troisième, très vite, on a dit « Ah oui, mais attendez, il faut quand même qu'on se défende contre la diffamation personnelle. » Et contre un certain nombre de doctrines qui ne sont pas admises dans l'espace de la liberté d'expression. Donc c'est facile de proclamer la liberté d'expression pour soi-même. Le test, je le répète, c'est quand il s'agit de la donner à votre adversaire, à votre ennemi.
Et alors, quand on s'exprime numériquement, parce qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de médias, en fait, qui permettent de propager la parole, qu'est-ce qui peut permettre de s'appuyer sur une charte, une déontologie, des mots qu'on oublie, notamment ?
Ben, vous savez, le pays qui se rapproche le plus de la démocratie, pour moi, c'est évidemment pas la France, c'est la Suisse. Alors, on peut dire, oui, la Suisse, les coffres-forts. Non, mais attendez, la Suisse, c'est un pays de démocratie participative, ce que la France n'est toujours pas. Ils font depuis un siècle et demi de la démocratie participative. Effectivement, ils ont des règles du jeu qui viennent de ce qu'ils sont protestants, pour une bonne majorité. Le pouvoir en Suisse, à un certain moment, a basculé entre les mains des protestants. Et donc, ils avaient un rapport à la liberté d'expression plus sincère, plus profond que les catholiques. Je le dis d'autant plus que moi, je suis né à Fougères, j'ai grandi à Rennes, dans une atmosphère catholique. Mais franchement, le catholicisme est un système centralisé qui est très tenté par la censure. D'ailleurs, le mot censure vient des Romains, mais via le Saint-Siège. Hein. Donc, nous avons des pays où il y a effectivement des sortes de chartes, des textes de référence, et surtout, on vérifie au quotidien qu'il peut y avoir pluralisme. Aujourd'hui, le problème, c'est que la technologie de la communication, qui est quand même capitale, évolue dans un sens qui n'est peut-être pas favorable à une liberté d'expression qui serait conforme au rêve que je peux en faire. En d'autres termes, parce que ça peut paraître un peu obscur ce que je dis là, mais il est évident qu'à l'époque des réseaux sociaux, c'est le triomphe d'une culture, effectivement, ce que j'appellerais individualiste de masse. Je crois que c'est ça où nous en sommes. Nous sommes plus que jamais individualistes, je viens de le dire, mais dans une société de massification. Le réseau social, c'est le croisement des deux. Bon. À l'époque des réseaux sociaux, à l'époque de la mort programmée d'une partie des médias, c'est-à-dire tous les médias papier. Parce qu'on dit souvent presse écrite. Moi, je viens de la presse écrite. Mon père était journaliste à West France, etc. Bon, elle est en train de mourir, mais il ne faut pas l'appeler écrite. C'est la presse imprimée. En revanche, l'écrit triomphe, mais sur écran. Sur écran. Donc, vous avez des médias qui meurent. C'est triste, certainement, à dire, mais grosso modo, c'est la société qui les fait mourir. C'est-à-dire qu'on n'achète plus de journaux papier. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a un grand méchant derrière, quel que soit son nom, qui manipule tout. La société vote avec ses pieds. Elle abandonne certains médias. Bon. Les réseaux sociaux les remplacent en partie. Le deuxième problème, c'est l'IA, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes quand même grandement menacés par des formes de manipulation universelle.
Big Brother is watching you.
D'une certaine façon, en tous les cas, les moyens sont donnés à chaque époque pour contrôler l'opinion. Ce qui compte, c'est d'avoir des institutions où il y ait des contre-pouvoirs. Je pense que là, ça peut paraître modeste comme conclusion, mais il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Je suis convaincu que n'importe quel révolutionnaire idéaliste qui arrive au pouvoir va en abuser. Ça me paraît fondamental. Je suis historien quand même. Ça se vérifie sans arrêt. Donc il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs.
Il faut quand même donner de l'optimisme à la sociologie.
Je ne suis pas sociologue. Je pense que l'histoire est une science sociale, c'est-à-dire que son objet, c'est la société. L'objet de l'histoire, ce n'est pas le passé, c'est le temps. Donc nous sommes dans le temps. Ce que j'espère, c'est que le temps actuel, avec des personnalités comme Trump, comme les dirigeants chinois, comme bien sûr Vladimir Poutine, cette société produit de l'interdiction de la censure à tire-larigot. Mais très sincèrement, à toutes les époques, il y a eu ça. Ce qu'il faut espérer, c'est que les contre-pouvoirs finissent par maintenir au moins un lieu de débat ici et là. Je ne suis pas sûr qu'à l'échelle de la planète, à l'heure actuelle, nous soyons à la veille de la construction de cet idéal de la liberté d'expression. Honnêtement, il n'y a aucune raison de penser que les sociétés humaines aillent en ce moment vers plus de liberté. Je vois bien d'excellents motifs de renforcer l'autorité. Et j'ajoute, pour bien mettre chacun devant ses responsabilités, que par exemple, la prophétie écologique actuelle, prophétie, c'est pas du tout péjoratif. Le mouvement de l'écologie politique, c'est un mouvement néo-religieux, on les connaît bien, peut conduire à des régimes autoritaires. Si ce que les écologistes nous disent en ce moment sur ce que sera la planète dans 50 ans, dans 100 ans, est-ce que vous imaginez que ça va développer la démocratie participative? Mais non, ça pourrait être, dans le pire des cas, un régime absolument totalitaire, parce que ça sera ça où nous disparaissons de la planète. Donc, franchement, je n'extrapole pas pour l'instant un progrès de la liberté, j'extrapole un progrès de l'autorité.
Merci, monsieur Horry, merci beaucoup.
Hélas, à bientôt.
Gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming, or you'll sink like a stone. But the times, they are changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, keep your eyes wide, the chance won't come again. Don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. Oh, the loser now will be later to win. Oh, the times, they are a-changing. I'm senators, congressmen, pleasing the calm. Don't lock up the doorway, don't lock up the hall. He that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside, and it's raging. But as soon as you shut your windows and write on your walls, for the times, they are changing. Fathers throughout the land, don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out. You can't learn the hell, all your times, they are changing.
line it is drawn and the curse it is cast. This blue one now will later be found. Is the present now will later be paid. The order is rapidly fading. And the first one now will later be last. But the times, they are unchanging.
Café Noir continue son gâteau d'anniversaire pour Syllab avec les Archives dépoussiérées. On finit avec les Fanatics, un groupe de reggae brétilien. Café Noir présente les Fanatics, un groupe de reggae brétilien rencontré le samedi 17 janvier 2026 au Coquelicot de Fougères. Bonne écoute. Café Noir, bonsoir.
Bonsoir.
Donc Fanatics, un groupe de reggae avec un titre notamment On The Way. On part en aventure avec Fanatics.
C'est ça exactement. On est rennais, on se revendique rennais depuis 2015. Et donc plus de 10 ans maintenant, 11 ans. Et puis voilà quoi, on est à fond, reggae music.
Alors il me semble que votre nom de chant ce soit Swift Bounty. Il semble qu'il y a un univers marin là-dedans, ouais. Me trompais-je?
Univers marin?
Non.
Le
Bounty.
Ah le Bounty, bah le Bounty c'est le côté en fait plutôt le côté cacao, coco pardon, parce que j'aime beaucoup la coco. Et le côté en fait on m'a souvent dit qu'avec ma voix on imaginait plutôt plutôt un gars. Enfin j'avais pas la gueule de l'emploi en fait simplement. On n'imaginait pas avec ma voix la petite tête de breton que j'ai. Donc je me suis dit tiens pourquoi pas le Bounty à l'envers quoi. Donc Swift parce qu'on m'appelle Swift depuis longtemps. Swift Bounty voilà.
Vous êtes rennais avec un chant anglophone, assez oui. Proche du jamaïcain anglophone, donc.
Oui, tout à fait, exactement. Ça, c'est c'était une volonté d'avoir ce côté anglais, enfin anglophone du moins, parce que la mélodie vient plus facilement, on va dire, c'est plus sympathique. C'est pas audible pour chacun, ceux qui ne sont pas bilingues, mais moi, j'ai appris à l'être, et puis j'écoute tellement de reggae que du coup, le côté jamaïcano, là, un petit peu, petit patois de temps en temps, m'est venu, me vient, enfin voilà.
Et il semble que dans les paroles, il y ait l'amour, les bonnes vibrations qui soient dans l'air, notamment.
Ouais, on a les valeurs du reggae vraiment au bout. C'est Fanatics, d'ailleurs, de toute façon, c'est à la base Fanatics vraiment de reggae musique, c'est-à-dire surtout du message, des messages du reggae. Et c'est amour, paix, unité, la majorité. Donc l'amour est une grande part de la chose, donc dans nos morceaux aussi, ouais.
Dans vos concerts, vous auriez fait un concert à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Oui, exactement. On a fait même un festival, un très beau festival. On est resté une semaine sur place. Du coup voilà on a pris l'avion tous ensemble, belle aventure, très très belle aventure pour le Dune Fest exactement, qui est organisé vraiment, enfin c'est une organisation incroyable parce que c'est uniquement des bénévoles comme dans beaucoup d'organisations, mais sur une île où il y a très peu de choses, sur une plage où il y a vraiment rien, ils font un festival digne des mini vieilles charrues, donc c'est génial, c'est vraiment énorme, et les trois quarts de la communauté de Saint-Pierre-et-Miquelon s'y retrouvent sur deux jours, donc on a eu la chance exceptionnelle de participer à ça.
Et pour les vibrations, votre musique doit vraiment se prêter à ce lieu et le lieu à la musique.
Ouais, clairement. Là, oui, on n'a jamais joué dans un univers, j'ai envie de dire, qui correspondait autant à la chose. Tout le monde dans un endroit qui n'est à personne déjà et que de la bonne vibration au pied de la mer. Donc c'est le top, quoi.
Vous aviez un premier album qui s'appelait Learn and Rise. Alors qu'est-ce qu'il fallait apprendre et comment fallait s'éveiller?
Eh ben, c'est à chacun son apprentissage. Hein. Mais On va dire qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent, nous en tout cas de notre point de vue, encore une fois, on peut pas généraliser pour tous, mais de notre point de vue, il y a beaucoup de choses qui se perdent. On parle de siècle de la médiocrité, pardon, dans le sens où des savoir-faire, des savoir-vivre, autant des choses locales que des choses nationales, que des choses internationales se perdent, comme qui fait qu'on perd l'amour, la paix, l'unité, justement. Et on le voit chaque année de plus en plus. Donc nous, on a voulu dire apprendre, parce qu'il faut lire, il faut s'instruire dans un premier temps. Il faut apprendre de l'autre aussi, en partageant, en communiquant un maximum et s'éveiller, parce que le savoir permet l'éveil. Parce qu'une fois qu'on connaît plein de choses, eh ben, on les comprend mieux. Donc normalement, on se comprend mieux et on évolue, on s'éveille, quoi, simplement. Voilà.
Votre musique semble vraiment une bonne solution pour proposer un monde pacifique.
Ce serait, en tout cas, on y contribue par notre petite, on est le petit grain de sable dans un océan de bienveillance. Voilà, tant qu'il y en a.
10 ans d'activité, au bout de 10 ans, comment on continue à insuffler justement des bonnes vibrations, une bonne entente pour que le groupe continue?
Avant tout, un groupe de musique, c'est une sacrée aventure humaine, et on a la chance de s'être retrouvés. Tous autant qu'on est là, en fait, tant qu'on se tolère, et clairement on n'a pas trop de problèmes là-dessus, on se voit toutes les semaines, tous les groupes ne le font pas déjà, nous on continue de se voir toutes les semaines pour bosser notre musique, on avance à notre rythme, mais toujours on est une bande de copains, en fait on se connaît très bien, on connaît nos familles, on s'apprécie pour ce qu'on est, pour ce qu'on fait, sans se mettre de pression, et c'est ce qui fait qu'on avance, en fait, sans s'embêter, et surtout, on a l'amour du reggae music en première intention, donc il y a une harmonie qui règne chez nous, chez les fanatiques, on a énormément de chance, tant que ça dure, on va pas cracher dessus, et puis on cherche pas trop, on continue comme on est, et puis c'est super, voilà.
Et alors, qu'est-ce qui est plus fort que vous? Il y a quand même quelque chose qui est plus fort.
Ah oui, Strangadanus. Le dernier album s'appelle Strangadanus. Parce que qu'est-ce qui est plus fort que nous? Bah, il y a plein de choses. Nos émotions, des fois, sont plus fortes que nous. C'est-à-dire que ce soit de la colère, de la tristesse, justement, l'amour, plein de choses, vont nous, des fois, nous dépasser. On n'arrive pas à canaliser tout ce qu'on peut exprimer. Les puissants de ce monde sont généralement plus forts que nous. Mais ça veut pas dire qu'il faut perdre espoir, justement. En gros, c'est simplement savoir faire face à tout ce qui est plus fort que nous, tout ce qui nous dépasse, et réussir à en faire quelque chose de cool, quoi. Comme notre dernier album d'ailleurs, qui est plutôt cool, qui résonne bien.
Bon, bah, gardons le contrôle et les bonnes vibrations. Merci.
Merci beaucoup, Emmanuel.
Merci beaucoup, c'était l'anniversaire de Syllab par Café Noir. À très bientôt, à la tasse prochaine.